Merci d'écouter VOA Afrique. Heureux de vous retrouver encore une fois dans ce nouveau numéro de Carrefour Sciences et Santé. Eric Manelakiza avec vous à Washington. Bonjour ou bonsoir chez vous. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble le glissement de pied dans le tennis. Un vol d'Ethiopian Airlines avec un équipage 100% féminin. Une première dans l'aviation. Eh bien, surveillez le poids de votre enfant pour lui épargner un risque cardiaque. Le gouvernement américain veut interdire la cigarette dans les logements du parc public. Une mesure qui fait grincer les dents des fumeurs. Restez à l'écoute. Votre Carrefour Sciences et Santé décortique d'autres sujets riches en informations. Vous écoutez Carrefour Sciences et Santé, votre école de la vie. Bienvenue. Vous le saviez peut-être, se lever bon matin, se coucher tôt, apporte prospérité, sagesse et santé, dit un proverbe breton. Vous pouvez vous imposer ce proverbe dans votre quotidien. Lucille Amon le fait tous les jours. Voici son témoignage. Bonjour Lucille.
Bonjour, ça va ?
Ça va très bien et vous êtes originaire justement de la Bretagne.
Voilà, la Bretagne, dans le nord-ouest de la France, en dessous de la Normandie.
Ouais, ouais, voilà, donc se lever bon matin, se coucher tôt, apporte prospérité, sagesse et santé. Apparemment, c'est ce que vous faites tous les jours.
Alors, c'est ce que je fais tous les jours, donc j'essaye en tout cas. Mmh. C'est vrai que dans la semaine, j'essaie d'avoir vraiment une hygiène de vie correct,
ah ouais.
Donc je me couche tôt. Mm-hmm. Pour moi, c'est très important d'avoir une bonne nuit de sommeil.
Ouais.
Donc voilà. Je pense que quand on se couche tôt, on est plus actif et on se réveille moins fatigué le lendemain matin. Quand j'entends tôt, je pense à pas après 10h30, quoi, je dirais. Pas après 10h30, moi je vais me coucher, je me réveille à 7h le matin, j'ai une bonne nuit de sommeil et je suis prête à démarrer la journée. Donc c'est ça, pour moi, qui est important, c'est vraiment me coucher tôt et j'ai l'impression d'être plus efficace, plus active dans la journée le lendemain.
Uh-huh.
Par contre, ça ne s'applique pas forcément au week-end. C'est vrai que le week-end, voilà, j'aime bien sortir comme beaucoup de gens. Donc là, je vais me coucher plus tard. Mais en même temps, j'aime bien aussi me réveiller tôt pour pouvoir profiter de la journée parce que je ne suis pas quelqu'un qui me lève à 13h de l'après-midi pour prendre mon petit déjeuner à 15h. J'aime pas ça.
Uh-huh. Est-ce que ça vous apporte de la prospérité ou de la sagesse ?
Je pense que se coucher tôt et se lever tôt, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Donc je dirais que ça me rend peut-être, oui, plus sage. Du coup, ça me fait moins sortir. Donc dans ce sens-là, oui, je dirais que ça m'apporte prospérité.
Donc, vous êtes de la Bretagne, vous appliquez à la lettre ce proverbe. Est-ce que vous le connaissiez avant ?
Non, je ne le connaissais pas. Mais il est breton, mais il y a plein d'autres, des centaines de milliers d'autres gens qui l'appliquent. Mmh. Après, voilà, les Bretons, ça me paraît bizarre quand même que ce soit un proverbe breton, parce qu'en général, les Bretons, ils sont quand même assez connus pour faire la fête. Donc, bon.
C'était peut-être une manière de leur
c'était un idéal de
sage
vie.
Et de...
Voilà, c'était un idéal de vie.
Oui.
Ce proverbe est un guide dans la vie des Bretons pour les aider à être plus prospères et sages.
Et ça marche.
Ben, je crois.
Oui, et surtout côté santé, qu'est-ce que cela pourrait, disons, inspirer à nos auditeurs qui nous écoutent pour vous imiter ?
Ben, je pense qu'au niveau de la santé, que ça soit mental ou physique, je pense que quand on se couche tôt et qu'on se lève tôt, derrière, la santé physique va suivre. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est plus actif. Et la santé mentale aussi, parce que, en général, voilà, quand on est fatigué, on est plus irritable, on est plus... irritable. Donc avoir une bonne nuit de sommeil, ça permet de renforcer ça. Et ça aussi, une bonne nuit de sommeil, ça apporte plus d'humour aussi.
Merci Lucille. Je suis en couche tard normalement et je vais essayer
d'appliquer le proverbe breton.
Ah oui, mais je suis quand même sage.
Hein. J'y crois.
Ouais. Merci Lucille et à la prochaine. Merci d'avoir contribué pour inspirer nos auditeurs.
De rien, merci Eric.
À vous de l'essayer, chères auditrices et auditeurs de VOA Afrique. Ça pourrait vous faire du bien, comme l'atteste Lucide. Je vous le disais au début de cette émission, les enfants obèses peuvent présenter des signes de maladie cardiaque dès l'âge de 8 ans. C'est ce que révèle une petite étude présentée mardi à la conférence annuelle de l'American Heart Association, association américaine du cœur, réunie à Orlando. Utilisant une IRM, imagerie par résonance magnétique, ces chercheurs ont mesuré le muscle cardiaque de 20 enfants et adolescents avec un poids normal et 20 autres considérés comme obèses. Kadiatou Traoré.
Selon la docteure Li Nguyen-Jing, chercheuse au Geisinger Health System, à Danville, Pennsylvanie, les parents devraient beaucoup s'investir pour faire maintenir un poids normal de leurs enfants. Principale auteure de l'étude, elle dit que l'obésité accroissait de 27% des jeunes obèses dans l'étude. 7 étaient adolescents. Pour les adultes, ils se situent entre 18,5 et 25. Au-delà de 25 et jusqu'à 29,9, la personne est en surpoids. À partir de 30, on parle d'obésité. Plusieurs enfants de l'étude souffraient également de problèmes de santé liés à un poids excessif, dont de l'asthme et de l'hypertension artérielle. Cependant, les chercheurs ont exclu les enfants diabétiques et ceux d'une extrême obésité qui ne pouvaient pas entrer dans la machine effectuant les IRM. Selon les estimations officielles, un enfant américain sur 3, entre 2 et 19 ans, est en surpoids ou obèse, augmentant nettement le risque de diabète adulte, d'excès de cholestérol et d'hypertension. L'obésité des 6 à 12 ans a plus que doublé aux États-Unis ces 30 dernières années et a quadruplé chez les adolescents. Le régime alimentaire américain typique pour les enfants est pointé du doigt pour ce taux élevé d'obésité. Outre l'alimentation, le manque d'activité physique et le temps passé devant les écrans de télévision et d'ordinateur sont également cités comme des facteurs pour ce problème.
La schizophrénie, un trouble mental sévère et chronique, peut être détectable à l'aide de scanners du cerveau. Des scientifiques britanniques multiplient les recherches. Jacques Aristide à les détails.
Ce groupe de scientifiques britanniques ne sont pas tout à fait catégoriques, mais indiquent avoir peut-être trouvé comment détecter les signes de la schizophrénie beaucoup plus tôt, cela à l'aide de scanners du cerveau. Les chercheurs ont notamment passé à la loupe l'activité des cellules immunitaires appelées microglies, qui réagissent aux dégâts et infections dans le cerveau. Et là, il faut noter que les personnes atteintes de schizophrénie ont des niveaux élevés de ces cellules immunitaires. Le docteur Oliver Howes est psychiatre.
Il s'agit de la première indication d'une nouvelle approche concernant le traitement de la schizophrénie. Ce qui est frappant, c'est qu'au cours des 60 dernières années, il n'y a eu aucune nouvelle approche qui a fondamentalement changé le traitement de cette maladie.
L'étude britannique montre que les cellules cérébrales microglies deviennent de plus en plus actives en fonction de la gravité des symptômes du patient. Les scientifiques se réjouissent des résultats de leurs recherches, car ils devraient, selon eux, conduire à une meilleure compréhension des maladies mentales.
Vous suivez Carrefour Science et Santé, un nouveau scanner couvrant tout le corps et développement. Il pourrait révolutionner la façon dont les chercheurs comprennent les rouages du corps humain. Ce scanner peut conduire à des mécanismes plus efficaces dans le combat contre les maladies comme les cancers, les maladies cardiovasculaires et cérébrales, n'est-ce pas, Bagassi Koura?
Contrairement aux rayons X et aux IRM qui montrent des images d'organes et d'os, le PET scan montre comment les organes et les tissus fonctionnent. ce qui aiderait le diagnostic et pour l'élimination des maladies. Les actuels scanners PET peuvent seulement montrer certaines parties du corps. Une équipe de chercheurs de l'Université de Californie Davis a reçu une subvention de 15,5 millions de dollars par les instituts américains de la santé pour construire le premier scanner PET supervisé, appelé Explorer.
Nous sommes un système d'organes qui sont tous en interaction les uns avec les autres, explique le professeur en radiologie Ramsi Badawi. Et nous n'avons jamais réussi à examiner cela par l'imagerie avant. Nous allons maintenant être capables de voir ça.
Simon Chéry, ingénieur biomédical, ajoute: les PET scans utilisent une subvention radioactive pour repérer les tumeurs et les signes d'autres maladies. Explorer emploie moins de radiation que l'actuel PET scan et capture les images plus rapidement.
Nous pouvons faire des analyses scannaires en 30 secondes, ce qui actuellement prend 20 minutes, ou nous pouvons baisser la dose de radiation de façon signifiante et faire des scanners avec une dose de radiation que nous utilisons actuellement.
Les chercheurs expliquent que les informations récoltées par Explorer pourraient conduire à des médicaments plus ciblés sur la maladie, ce qui diminuerait les effets secondaires par la localisation des thérapies à travers le corps. Ils espèrent tester ce scanner, unique en son genre, sur les hommes dans 3 ans.
Ici aux États-Unis, le tabac tue 480 000 personnes chaque année, affirment les autorités sanitaires. Le charismatique secrétaire au logement et au développement urbain, Julian Castro, un ex-élu du Texas, se présentait comme l'équivalent hispanique d'un jeune Barack Obama, veut interdire la cigarette dans les logements du parc public. Lionel Gahima s'est informé pour vous.
Selon le secrétaire d'État au logement et au développement urbain, Julian Castro, le gouvernement américain a la responsabilité de protéger les habitants de logements du parc public des conséquences nocives de la tabagie passive. Ce projet de réglementation aidera à améliorer la santé de plus de 760 000 enfants et permettra aux agences de l'habitat social d'économiser annuellement 153 millions de dollars en couverture de santé, maintenance et incendie évitable, a-t-il justifié. Concrètement, le texte prévoit que les cigarettes, les pipes et les cigares seront bannis de tous les locaux d'habitation, de tous les bureaux administratifs, de toutes les parties intérieures communes et enfin des zones extérieures dans un rayon de 8 mètres. Cependant, la mesure risque toutefois de faire grincer les dents des milliers d'Américains, à la fois fumeurs et occupants d'un logement HLM, qui estiment que cette règle empiète sur leur sacro-sainte liberté individuelle. Bien que les États-Unis conservent toujours une longueur d'avance dans la lutte anti-tabac, quelque 480 000 personnes meurent chaque année à cause du tabagisme, selon les autorités sanitaires américaines.
Auditrices et auditeurs de VOA Afrique, Carrefour Science et Santé se poursuit. Auriez-vous le rêve de devenir un champion de la petite balle jaune ? Le tennis s'invite dans la science et Georges Poutich nous révèle le secret du succès. Le glissement de pied est devenu une des parties essentielles d'un jeu rapide en tennis. Les scientifiques ont commencé à y prêter attention. Ils analysent cette technique, pas seulement pour mieux la comprendre, mais aussi pour développer des chaussures et terrains plus adaptés. Le business se développe. Lucille Hamon est fan de tennis.
Glisser pour envoyer la balle de tennis est une pratique commune sur les terrains d'argile. Mais récemment, les joueurs ont commencé à utiliser cette technique sur l'herbe et le bitume. Les scientifiques affirment que le glissement de pied est plus rapide et permet aux joueurs de tennis de changer de direction plus vite.
Le rythme du jeu s'est largement accéléré parce que les joueurs servent plus vite qu'avant et ça peut être dû au matériau des raquettes ou des cordes. Mais je pense que c'est important que les joueurs atteignent la balle plus vite.
Pour le moment, seulement les meilleurs joueurs maîtrisent la technique sur le gazon et le bitume. Pour réussir ces glissements, les chaussures doivent épouser la surface du terrain parfaitement. Et c'est là où la science entre en jeu.
I think it it will become more like a Formula One race, probably.
Je pense que le glissement de pied ressemblera à une course de Formule 1 en fonction des conditions climatiques ou en fonction du type de terrain.
Recherchant la meilleure harmonie possible entre la chaussure et le terrain, les chercheurs à l'université de Sheffield ont construit une plateforme spéciale qui mesure la pression des glissements sur la chaussure.
Nous avons besoin de connaître un certain nombre de paramètres. Comment la chaussure se déforme lors du mouvement, comment les propriétés de la chaussure jouent sur l'interaction, comment le type de terrain de tennis peuvent l'impacter, et aussi d'autres facteurs comme le climat et comment les joueurs glissent ou se déplacent sur le terrain.
Cette recherche, en partenariat avec la Fédération internationale de tennis, devrait déboucher sur différents matériaux pour les chaussures, les types de surfaces et en définitive, cette avancée débouchera sur des matchs encore plus passionnants.
Le nombre d'années nécessaires à la décomposition des produits en polystyrène est encore incertain. Peu importe s'il faut 500 ou 5000 ans, à l'échelle humaine, cela constitue une très longue période et illustre l'ampleur du problème que nous créons à chaque fois que nous utilisons des produits à usage unique. Mais des scientifiques auraient trouvé une manière inhabituelle de détruire ces déchets en plastique. Un reportage de Jessica Berman pour la VOA vous est présenté par Dili Dico.
La biodégradation du polystyrène requiert des centaines d'années. Ces assiettes, ces gobelets et ces récipients en plastique jetable occupent aujourd'hui entre 25 et 30% de nos décharges d'ordures. Selon Anya Brandon de Stanford University, les insectes constituent une solution efficace. Wei Minyu, ingénieur en environnement à Stanford University, soutient cette hypothèse.
Mais ces petites bestioles pourraient régler le problème en se nourrissant du plastique. Il s'avère que les vers de farine apprécient le polystyrène.
Les vers de farine mangent le polystyrène et le digèrent dans leurs intestins. Le processus s'est réalisé très rapidement. En moins de 24 heures, le polystyrène est devenu du
CO2.
Chaque verre de farine peut digérer par jour une quantité de plastique équivalente à un cachet. Des enzymes spéciaux présents dans leur intestin permettent de transformer le polystyrène. Le professeur en ingénierie environnementale à Stanford University, Craig Criddle, dit à ce sujet.
Je pense que les enzymes sécrétées sont très intéressantes et sont des outils permettant de fractionner le plastique en morceaux.
Les chercheurs tentent de développer des enzymes pouvant reproduire les capacités de transformation des déchets plastiques des vers de farine. Encore une fois, le professeur Craig Criddle nous explique.
Il s'agit d'un problème parce que nous sommes à court d'espace de stockage de déchets d'une part, notamment dans les aires urbaines, densément peuplées. D'autre part, l'encombrement qui en résulte, en particulier dans l'océan, dont tous entendent parler, mais aussi dans le monde entier.
Étonnamment, les scientifiques environnementaux ont découvert que les vers de farine dévorant le polystyrène sont en aussi bonne santé que ceux s'alimentant des céréales de son.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé en début du mois que tous les endroits touchés par le déversement de déchets toxiques ont été nettoyés. Il y a 9 ans, un navire, le Probo Koala, pour ne pas le nommer, avait déchargé des déchets toxiques dans une douzaine de lieux et autour d'Abidjan. Au moins 15 personnes sont mortes et des dizaines de milliers ont été affectées selon les autorités locales. À ce jour, de nombreuses victimes sont toujours en attente de réparation. Explication avec John Lyndon.
C'était une zone de non-droit. Mais aujourd'hui, et c'est le gouvernement ivoirien qui l'affirme, ce petit lopin de terre, situé à 10 km au nord d'Abidjan, est désormais décontaminé et sûr. Salif Ouedraogo, agriculteur, vit à proximité. Il se souvient encore de ce jour où il marchait dans une mare de liquide noir avec son fils d'un an sur le chemin du champ.
L'odeur des déchets là, ça touche. On dit c'est herbicide qui tue herbe. Mais l'odeur là, vraiment... C'est trop piquant. parce que l'odeur là-même, c'est comme piment.
Au début, les gens pensaient que c'était une sorte de désherbant. Mais l'odeur était tout simplement trop forte, comme celle du piment. Il s'agissait en fait de plusieurs centaines de tonnes de déchets toxiques déversés illégalement en plein air dans et autour d'Abidjan. Ces déchets provenaient du navire Probo Koala, affrété par la firme néerlandaise de négoce de pétrole Trafigura. De nouveau, l'agriculteur Salif Ouedraogo.
Oui, il en prend là, tout son corps est devenu bouton, bouton, tout ses plaies. Quand il respire seulement, non, ça lui donne la rhume, maux de tête, vomissement.
Une étude menée par l'Institut national ivoirien de la santé publique a trouvé que les déchets toxiques avaient causé la mort d'au moins 15 personnes et rendu malades des dizaines de milliers. La société Trafigura a toujours nié être responsable de cela. En 2007, elle a accepté de payer plus de 160 millions de dollars en échange d'être exemptée de poursuites ultérieures. Trafigura a également payé une somme supplémentaire de 37 millions de dollars pour régler une affaire judiciaire au Royaume-Uni 2 ans plus tard. L'argent était destiné à être utilisé pour nettoyer les sites de déversement et indemniser les victimes. Fatoumatou Kindo vit près de l'un des sites de déversement.
Tous les jours, il y a des représentants qui se disent représentants. Ils viennent dire aux victimes de se recenser. Ils vont les dédommager. Quand tu es là, tu es malade, tu n'as personne pour t'aider. Quelqu'un vient te dire, donne 5 000 francs pour que demain, ils te redonnent 3 millions. Tu vois, tu verras que... Donc, ils ont eu beaucoup.
En outre, le directeur d'Amnesty International Côte d'Ivoire, Hervé Delma Kokou, dit que le risque pour la santé n'a pas été évalué.
Aujourd'hui, nous assistons à des maladies un peu nouvelles pour la population ivoirienne, des cancers qui naissent à tout moment, des AVC réguliers depuis un certain moment. Les spécialistes vous diront que le taux est assez élevé. Mais d'où provient tout ça? Je ne dis pas seulement des déchets toxiques, mais il faut qu'on nous situe.
Le directeur d'Amnesty International Côte d'Ivoire, Hervé Delma Kokou.
Pour finir en beauté, voyageons dans le pays d'Haïlé Sélassié où l'aviation civile place désormais la femme au cœur de la réussite avec un vol sous contrôle d'un équipage entièrement féminin à destination de Bangkok et en Thaïlande mercredi dernier. La compagnie aérienne explique qu'elle veut promouvoir l'indépendance des femmes et encourager les jeunes filles africaines à suivre des études en aviation. Michel Joseph nous relate le récit de Marthe Van Del Wolf de VOA qui a visité l'aéroport d'Addis Abeba.
Le PDG de la compagnie aérienne éthiopienne Tewolde Gebremariam explique qu'attirer plus de femmes dans les métiers de l'aviation est l'une des raisons d'avoir des vols uniquement menés par des femmes.
Cela va être très inspirant pour toutes les femmes du monde, les femmes travaillant dans l'aviation et particulièrement les femmes africaines. Parce que, comme vous le savez, l'Afrique est en retard à ce niveau dans l'indépendance des femmes. Donc, ce vol va inspirer toutes les écoles de filles en Afrique et qu'elles auront un futur promettant au 21e siècle.
Le vol est conduit par des femmes dans tous les aspects, de la conduite de l'avion à son entretien et des pilotes aux contrôleurs aériens. Même à l'arrivée de l'avion à Bangkok, la douane et les agents d'immigration seront féminines. La compagnie aérienne explique qu'environ un tiers de ses employés sont des femmes. Mais ce nombre diminue au niveau des métiers de pilote ou technicien. Haymanot Ndale, 22 ans, est technicienne de maintenance en cabine et travaille pour la compagnie aérienne éthiopienne depuis 2 ans. Elle explique que bien que beaucoup de jeunes femmes travaillent en tant qu'hôtesse de l'air, en tant que technicienne, ses collègues sont majoritairement des hommes.
Je pense que d'un point de vue extérieur, les femmes pensent que mon travail est difficile, donc elles ne se présentent pas pour travailler à la compagnie. Mais quand on est employé, on voit que le travail est très facile.
Beaucoup d'Éthiopiennes, connues pour leur réussite dans le business ou la politique, ont assisté à l'événement, dont la première dame éthiopienne, Romane Tesfaye. Ethiopian Airlines est la compagnie la plus rentable en Afrique.
Merci à toi Michel Joseph, ça me donne l'envie de stimuler ma fille à devenir pilote de ligne. Une belle histoire à raconter à votre fille aussi, c'est possible, les Éthiopiennes nous donnent le pion, mais c'est pour leur emboîter le pas, n'est-ce pas? Ainsi, enfin, votre Carrefour Science et Santé, Eric Manilakiza vous dit au revoir et vous retrouve la semaine prochaine.
Bienvenue.